RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/frenh.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi les nouvelles de l'Indonésie et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et le magazine musical. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et les nouvelles de l'Indonésie.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par la nouvelle. L'Indonésie encourage le renforcement d'une coopération bilatérale avec le Brésil. Le vice-président Yusuf Kalla a reçu la visite du directeur général du Parc mondial des Nations Unies. Le ministre de l'Information dit que Zanzibar et l'Indonésie ont des similitudes. Le président rappelle à l'ASEAN plus droit de renforcer l'initiative de Chiang Mai. Le président Jokowi a fait une réunion bilatérale avec le premier ministre japonais. L'Indonésie et la Malaisie ont discuté de la région frontalière. Les exportations de 1,5 trillion roupias, le ministère de l'Agriculture encourage la compétitivité des produits de thé. Bon, chers auditeurs, voici le journal complet. L'Indonésie et le Brésil doivent faire attention à la coopération stratégique qui était en cours. Comme la déclaration de Daryanto Harsono, le directeur adjoint de la direction américaine, Direction générale de la coopération américaine et européenne du ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie lors d'un séminaire organisé à Jakarta récemment. Les deux pays doivent refléter le sens de la coopération stratégique. Dans le domaine politique, nous encourageons l'échange de visites des chefs d'État, des ministres et des autres fonctionnaires. Dans les secteurs commercial et économique, nous devons renforcer la coopération qui apportera des avantages économiques et sociaux et améliorera le niveau de vie de la population des deux pays. Il est important que l'Indonésie mène des études de visibilité sur les chances commerciaux dans le cadre d'un accord global de coopération économique. Dans le secteur du tourisme, j'invite le Brésil à coopérer pour augmenter le nombre de visites dans les deux pays. Daryanto Harsono a souligné l'importance de promouvoir la coopération avec le Brésil. Ce pays est un partenaire stratégique pour l'Indonésie, en particulier dans la région de l'Amérique du Sud et des Caraïbes. Il a encouragé les deux pays à maintenir leur engagement à revitaliser et à renforcer la coopération bilatérale, notamment en encourageant davantage de réunions à tous les niveaux liés à la mise en œuvre de plans d'action communs dans le cadre de partenariats stratégiques. Le vice-président Yusuf Kalla a reçu la visite du directeur général de Global Compact des Nations Unies, Lai Skingo, au palais vice-président à Jakarta vendredi. À cette occasion, l'Eskingo a dit son intention au vice-président qu'il voulait impliquer des entreprises locales en Indonésie à participer au Pacte mondial des Nations Unies. Après la réunion, il a déclaré qu'il était ravi de rencontrer le vice-président pour lui expliquer le Pacte mondial des Nations Unies, l'institution initiatrice dans le plus grand domaine du commerce durable au monde. Cette institution et le Pacte des Nations Unies n'est pas contraignant, qui a pour objectif de stimuler les entreprises économiques du monde entier et d'atteindre les objectifs de développement durable. Au cours des derniers jours en Indonésie, l'Eskingo a participé au Festival de la philanthropie indonésienne à Jakarta Convention Center Senayan, a rencontré le ministre de la Planification du Développement National, Bambang Brojonegoro, et a discuté avec un certain nombre d'étudiants liés au développement des affaires en Indonésie. Le ministre de l'Information, du Tourisme et du Patrimoine de Zanzibar, Mahmoud Thabit Kombo, a déclaré qu'il y avait une similitude entre l'Indonésie, y compris Bali, avec son pays, comme par exemple dans le secteur des produits agricoles, touristiques, y compris le climat tropical. C'est ce qu'a déclaré par Thabit Kombo, accompagné de l'ambassadeur de Tanzanie en Indonésie, Ramadhani Kitwana Dau, sur les activités tournées touristiques de Zanzibar en Indonésie, qui s'est tenue vendredi à Kuta Bali. Selon lui, il existe de nombreuses similitudes entre la communauté indonésienne et la communauté de Zanzibar, ainsi que son histoire, y compris des produits fruitiers tels que le mangoustan et le rambutan, originaires d'Indonésie. Les produits importés par Zanzibar sont originaires d'Indonésie via Madagascar sous forme d'épices. Mahmoud Thabit Kombo a déclaré que l'Indonésie était un collègue de travail depuis longtemps, il y a des centaines d'années. Le président Joko Widodo a rappelé aux pays membres de l'ASEAN et à trois partenaires du Forum ASEAN plus tri renforcé à l'initiative de multilatéralisation de Chiang Mai afin de préserver la résilience économique. Le président Joko Widodo a déclaré au 21e sommet de l'ASEAN plus 3 au centre de convention Suntec à Singapour que la situation économique mondiale a de graves conséquences pour les pays de la région. Les grandes sorties des capitaux entraînent des fluctuations du taux de change. L'accord de l'initiative de multilatéralisation de Chiang Mai est un accord multilatéral entre les ministères des Finances et les banques centrales des pays membres de l'ASEAN et des trois pays de la région, à savoir le Japon, la Chine, la Corée du Sud et les institutions monétaires de Hong Kong, visant à fournir un soutien financier par les transactions d'échange entre membres. Selon le président, le monde connaît actuellement une situation économique instable, une crise financière et un sentiment de protectionnisme. Ces questions peuvent endommager le système commercial multilatéral et perturber la croissance économique au niveau régional et national, entraînant des fluctuations des taux d'échange. La coopération économique est le sujet principal des réunions bilatérales entre le président Joko Widodo et le premier ministre japonais Shinzo Abe. Ils ont discuté de l'un des projets d'infrastructure faits par le Japon, à savoir Mass Rapid Transit, qui a eu lieu à Suntec Convention Center à Singapour. Au cours de la réunion de 30 minutes, le président Jokowi a également exprimé sa préoccupation face à la politique japonaise en matière de certification dans le secteur de l'huile de palme. Le président a déclaré que l'Indonésie avait mis en œuvre le programme L'huile de palme durable de l'Indonésie, ou ISPO, en matière de certification de l'huile de palme. L'Indonésie espère également que le certificat pourra être accepté et renforcé par le Japon. En outre, le président Jokowi a également exprimé l'espoir que le gouvernement japonais pourrait donner la flexibilité dans les négociations sur un examen approfondi de l'accord de partenariat. afin que les négociations des deux cadres de coopération soient résolues immédiatement. Enfin, le président Joko Widodo a déclaré le potentiel de coopération indo-japonais à l'avenir est très largement ouvert. Le ministre indonésien de la Défense, Riamizar Riachudu, et son homologue malais, Haji Muhammad bin Sabu, ont discuté de la coopération des zones frontalières lors de la 41e réunion du comité de la frontière Malaisie-Indonésie à Kuta, Bali. Riamizar déclarait que l'Indonésie et la Malaisie étaient deux pays qui, au niveau régional, avaient un rôle important à jouer dans le maintien de la stabilité et du progrès dans la région de l'Asie du Sud-Est. La réunion de GBC Malindo est un forum routinier annuel destiné à faciliter le dialogue entre les deux pays, en particulier pour faire progresser l'interaction de la coopération dans la région frontalière. Selon Riamizar, jusqu'à présent, le forum de coopération de Malindo a enregistré de nombreux progrès avec des résultats concrets et ressenti des avantages dans les domaines de la sécurité frontalière, le bien-être, l'économie et la socioculture des deux pays, ainsi que les problèmes et les liés à la question de la traversée des personnes et des biens. Il a ajouté que les avantages d'une telle coopération pourraient être ressentis par le maintien de relations intergouvernementales et des relations de plus en plus étroites entre les communautés des deux pays. Selon Bambang, directeur général des plantations du ministère de l'Agriculture, les produits de thé contribuent à l'économie nationale. Selon les données, les exportations de thé ont augmenté de 1% depuis 2016 d'un montant de 1,51 trillion roupias à 1,53 trillion roupias en 2017. Jusqu'en septembre 2018, la contribution des exportations de thé a atteint 1,23 trillion roupias. Bambang a déclaré que la Russie, la Malaisie et le Pakistan étaient les trois pays de destination des exportations de thé indonésien avec des contributions atteignant 41%. Il a expliqué bien que la superficie nationale et la croissance de la production en 2014-2017 est diminuée en moyenne, mais en 2018, elle a commencé à montrer une augmentation de la production d'environ 139 000 tonnes à environ 140 000 tonnes jusqu'en septembre 2018. Il a ajouté que pour progresser le thé national, il faut nécessiter la synergie et le rôle de toutes les parties, en particulier des agriculteurs et de l'industrie, pour augmenter la compétitivité nationale du thé. Alors les auditeurs, c'est tout le journal d'aujourd'hui.
Les nouvelles de l'Indonésie. Les informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie, un programme qui présente diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. Tout d'abord, l'info de Magelang, Java Central. La communauté sur les pentes du mont Sumbing, du village Genito Windusari Région Magelang, Java Central, a organisé mardi un rituel le mariage du tabac au printemps Sendang Piwakan. Le rituel du mariage du tabac a été dirigé par l'observateur culturel Agus Merapi, qui a prié à Sendang Piwakan alors qu'il transportait deux plants de tabac qui ont été mariés dans l'espoir d'amener la fertilité des plants de tabac au village Genito. Il a déclaré que cette activité était un geste de gratitude pour la bonne récolte de tabac et qu'il espérait que la récolte de l'année prochaine serait encore meilleure. Le tabac marié serait du tabac masculin du nom de Kiai Pulung Soto et du tabac féminin Nyai Srintil. Dans le rituel du mariage du tabac, la communauté a également fait gunungan des cultures qui, à la fin du rituel, gunungan a été contesté par la communauté. Le chef du village Genito, Trasmantio, a déclaré que la majorité des habitants du village Genito étaient des producteurs de tabac. Il a déclaré que le prix du tabac à la récolte de cette année était plutôt bon, atteignant 75 000 rupiah par kilogramme. La production de tabac a également augmenté cette année. La deuxième info vient de Solo, Java Central. Le palais Kasunanan Surakarta Hadiningrat a officiellement lancé l'événement Sekaten 2018 avec le signe des deux sons de gamelan sacrés du palais, à savoir gamelan Kiai Guntur Madu et Kiai Guntur Sari dans le quartier du palais Solo, mardi. Gamelan Kiai Guntur Madu se trouve au côté sud de la mosquée dans le quartier Pradanga. Gamelan Kiai Guntur Sari est placé au côté nord de la mosquée dans le quartier Praganga. Le gestionnaire de la grande mosquée Solo, Muhtarom, a déclaré que le gamelan avait retenti pendant 7 jours consécutifs au cours de la journée, à compter de 14 heures. Tant que le gamelan est utilisé, la communauté perpétue la tradition du Ninang, qui consiste en 5 éléments: la feuille de betel, le gamier, le tabac, la fleur de kanti et la lime à betel. Cependant, le pengageng parentah du palais Solo, GPH Dipokusumo, a déclaré que le but de ce katen était de commémorer la naissance du prophète Mohammed. Une activité qui est identique de ce katen est le marché populaire. Il a déclaré qu'il était important de conserver une impression traditionnelle car l'essence du marché des consommateurs réside dans le processus d'achat et de vente des consommateurs et pour les consommateurs. Le marché populaire se situe autour de la place de la mosquée au voisinage du palais Solo. La dernière, l'info de Pamekasan, Javaes. Dodi, l'étudiant du pensionnat islamique Banyuanyar, Pamekasan Javaes, a remporté le concours Musabakoh Hifzil Quran de l'ASEAN qui s'est tenu à Jakarta du 9 au 11 novembre 2018. Précédemment, Dodi avait également remporté la première place du Musabakoh Hifzil Quran de la région Javaes, tenu dans le pensionnat islamique moderne Al-Amanah à Sidoarjo. Selon le responsable du lycée Tahfidz Darul Ulum Holilur Rahman, le concours est le quatrième Musabakoh Hifzil Quran de l'ASEAN en coopération avec le pensionnat islamique Darun Najah à Jakarta avec le Qatar. Des délégués de plusieurs pays tels que le Cambodge, Singapour, le Myanmar, le Brunei Darussalam, la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines et le Qatar ont assisté au concours. Précédemment, au niveau de l'ASEAN, Dodi a remporté la troisième place, tandis que la première place a été remportée par le participant du Cambodge et la deuxième par le participant de Banten. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 17 novembre. Le 17 novembre 1950, Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama, était couronné chef de l'État tibétain. Tenzin Gyatso a été déclaré la réincarnation du 13e Dalai Lama à l'âge de 3 ans. Il a pris le trône du chef de l'État tibétain à l'époque où les forces de la République populaire de Chine occupaient la région. Après la défaite du mouvement de résistance tibétain en 1959, Tenzin Gyatso s'est enfui en Inde et a mis en place un gouvernement tibétain en exil. Tenzin Gyatso est le premier Dalai Lama à visiter le monde occidental. En 1989, il a reçu le prix Nobel de la paix. Dans une conférence prononcée le 10 mars 2011, le 14e Dalai Lama a exprimé son opinion sur les modifications à apporter à la constitution du gouvernement tibétain en exil, qui effacerait le rôle du Dalai Lama en tant que dirigeant du pays et le remplacerait par un dirigeant élu. Si cela est accepté par le parlement du gouvernement tibétain en exil, cette décision déclarera la démission du Dalai Lama de son rôle politique officiel, même s'il continuera à assumer ses fonctions de chef religieux. Le 14 mars 2011, il a officiellement annoncé sa démission en tant que dirigeant politique au Parlement tibétain en exil à Dharamsala, en Inde. Le 17 novembre 1983, la création de l'Armée de libération nationale zapatiste au Mexique. L'Armée de libération nationale zapatiste est un groupe révolutionnaire armé basé à Chiapas, au Mexique. La majorité de leurs membres sont des peuples autochtones, mais ont également des sympathisants des zones urbaines, tels que le soutien des réseaux internationaux. Beaucoup de gens considèrent le mouvement zapatiste comme la première révolution postmoderne, un groupe révolutionnaire armé, donc violent, qui utilise la technologie moderne du téléphone par satellite et Internet comme moyen de mobiliser un soutien national et étranger. Les zapatistes captent l'attention du monde avec le pouvoir d'inspiration qu'ils ont répandu depuis le début. Les zapatistes ont pris les armes pour ne pas prendre le pouvoir, mais pour créer un espace démocratique. Ici, différents points de vue politiques peuvent être discutés. Le 17 novembre 2003, l'acteur Arnold Schwarzenegger a été nommé gouverneur de Californie. Arnold Alois Schwarzenegger est un acteur carrossier, homme politique républicain et homme d'affaires qui a été le 38e gouverneur de Californie entre 2003 et 2011. Il a été élu gouverneur de Californie le 7 octobre 2003, lors de l'élection générale de Californie qui a été accélérée pour remplacer Gray Davis du poste de gouverneur. Schwarzenegger a été nommé pour assumer le mandat restant à Davis jusqu'en janvier 2007. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en pot titre, le ministère de l'Agriculture distribue 1225 bêtes à couver aux éleveurs. Le directorat général de l'élevage et de la santé animale du ministère de l'Agriculture a distribué 1225 croiseurs Brahman aux éleveurs afin d'accélérer l'augmentation de la population bovine domestique. Le directeur général de l'élevage et de la santé des animaux, Iketut Diarmita, dans une déclaration écrite reçue par Antara Jakarta jeudi 15 novembre, a déclaré que l'ajout de taureaux provenant d'Australie devrait accroître les sources d'investissement et devenir le fondement de l'autosuffisance en viande de bœuf lancée en 2022. En général, l'ajout total de couvées en 2018 devrait atteindre 6 000 et sera distribué aux éleveurs aux 110 régions ou villes, aux 24 provinces qui sont des centres d'élevage. Les bénéficiaires de géniteurs en 2018 sont des groupes qui ont été sélectionnés de manière sélective, à la fois pour fournir des sources de nourriture et pour leur expérience dans la gestion de stocks de géniteurs. Le bénéficiaire de l'assistance aux géniteurs est réparti en 80 groupes d'éleveurs et 2 unités régionales d'application technique situées dans 35 régions et 5 provinces, à savoir Yogyakarta, Kalimantan Ouest, Java Central, Java Est et Java Ouest. Les récipiendaires de géniteurs sont le résultat d'une vérification effectuée par une équipe composée d'un centre supérieur pour l'élevage et l'alimentation animale Baturaden et de services d'élevage de la région ou de la province. Diarmita a déclaré que l'objectif était que dans 2 ans, la maintenance dépasse 50% du total initial. Cependant, le directeur de la pépinière et de la production animale du ministère de l'Agriculture, Sugiono, a confirmé que 1225 vaches australiennes sont entrées en Indonésie le 30 octobre 2018, qui avaient déjà été effectuées par inspection avant expédition dans leur pays d'origine. En outre, Sintong Hutasoit, chef du centre d'élevage et de fourrage de grande qualité de Baturaden, a déclaré que pour assurer la santé des vaches, son équipe avait précédemment examiné l'arrivée du bétail dans le port Tanjung Intan à Cilacap. De plus, les vaches ont également été mises en quarantaine pendant 7 jours à l'installation de quarantaine des animaux Cilacap. D'après les résultats de la quarantaine, les vaches ont été déclarées en bonne santé à 100%. Leur appétit est très bon et ne présente pas de symptômes de maladie animale, de sorte que le certificat de santé animale 14 a été délivré par l'installation de quarantaine des animaux Cilacap. Dans le but d'accroître la population, en plus de l'ajout de couvées emportées, le ministère de l'Agriculture a déployé plusieurs efforts, notamment l'accélération de l'augmentation du cheptel bovin grâce aux efforts spéciaux obligatoires pour la reproduction des bovins, puis le renforcement de 7 unités de mise en œuvre technique en produisant des semences de qualité pour la vache ou le buffle, coupe femme productif. Selon Diarmita, le gouvernement encourage également les investisseurs privés à investir le capital dans le monde de l'élevage à grande échelle. Cher ami, c'était mon Indonésie. Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans le Magazine Culturel. Aujourd'hui, nous vous présentons l'une des destinations touristiques dans la province de Java West, Pabangbon. Alors, soyez toujours avec nous, la Voix de l'Indonésie, le service international de RRI. Autre part les écoutes, vous pouvez écouter nos émissions sur www.voi.co.id. Chers auditeurs, récemment, la maison d'Abre devient l'une des installations de l'objet touristique qui attire les jeunes Indonésiens. Pour cette raison, divers objets de tourisme dans diverses régions d'Indonésie sont en concurrence pour fournir des installations de maison d'Abre à l'objet touristique. Un objet touristique, Pabangbon à Bogor, Java West, par exemple, construit également des maisons d'Abre pour les visiteurs. Pabangbon offre de beaux paysages naturels. S'il fait beau, les touristes peuvent profiter du paysage de la ville de Bogor d'une hauteur. Tandis que si le temps est nuageux, les touristes auront l'impression d'être au pays des nuages. Outre les maisons d'abri, les touristes peuvent également faire diverses activités à Pabangbon, comme prendre des photos de soi, profiter d'un panorama naturel magnifique ou se détendre sous un arbre ou un gazebo et un hamac. L'objet touristique peut aussi devenir une visite éducative car à cet objet touristique, il y a des arbres maranti plantés pour une chaise. L'objet touristique de Pabangbon est situé au village de Pabangbon, sous-district de Le Wiliang, la résidence de Bogor, en province de Java West. La distance du centre-ville de Bogor au site touristique est environ 32 km et prend environ 1h30 pour y arriver. De la ville de Bogor, les touristes peuvent prendre la route vers la rue principale de Le Wiliang. Après son arrivée à Le Wiliang, il continue jusqu'à Tijongsien, Kracak, ensuite prendre à gauche direction vers le village de Pabangbon, qui est déjà proche du site touristique de Pabangbon. En raison du manque des panneaux de signalisation à l'objet touristique, le touriste doit demander aux personnes locales la bonne direction. L'objet touristique de Pabangbon fournit divers types d'équipements de soutien aux touristes, entre autres des salles de repos, des restaurants et des parkings. Avec diverses installations et la beauté du panorama naturel, l'objet touristique est relativement bon marché. Les touristes ne dépensent que 6 000 rupiah ou la moitié du dollar américain par personne pour le billet d'entrée. Et si vous voulez prendre une photo sur la maison d'Abre, vous ne pouvez payer que 5 000 rupiah par personne. Avec des billets relativement bon marché et diverses installations et un beau panorama, l'objet de tourisme Pabangbon vaut certainement la peine d'être visité. Si vous visitez Bogor, Java West, s'il vous plaît, prenez le temps de visiter Pabangbon. Chères auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Demain, nous nous retrouvons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt.
Bonsoir à tous. Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, en formant sur le Festival des écrivains et de la culture de Borobudur 2018.
Warna-warni. L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
La 7e édition du Festival des écrivains et de la culture de Borobudur aura lieu cette année. Cette fois-ci, ce festival a pour thème « Voyager et journal », relire les archives quotidiennes des étudiants étrangers sur l'archipel. L'un des fondateurs du Festival culturel et des écrivains de Borobudur, Muji Sutrisno, ou Romo Muji à Jakarta, a déclaré que le but de cette activité est de pouvoir tisser les meilleures valeurs de localité, d'ethnie, de religion et de devenir indonésien. Ce festival se tiendra du 22 au 24 novembre 2018 à Yogyakarta et à Magelang. Le Festival des écrivains et de la culture de Borobudur 2018 nous invite à réaliser le caractère unique et la richesse de la pensée de la littérature, de l'art et de la religion dans l'archipel, afin que cet événement cible les jeunes. Sous le thème « Voyage et journal, relire les archives quotidiennes des étudiants étrangers dans l'archipel », l'événement tiendra divers débats sur le récit de voyage des personnalités historiques visitant l'Indonésie. Les notes de voyage qui sont discutées incluent celles de Ising à l'époque Sriwijaya, Ibnu Battuta à Majapahit et Samudra Pasai à Wales à l'époque coloniale hollandaise et Rabindranath Tagore qui s'est rendu en 1927. Non seulement les documents de voyage des personnalités historiques étrangères en Indonésie avant l'indépendance, cet événement traitera également du record de voyage du lauréat du prix Nobel, V.S. Naipaul, lors de sa visite en Indonésie dans les années 1980. En plus de discuter des manuscrits de récits de voyage de personnalités historiques, un tel festival étudiera également des livres sur les peintures de la ville Batavia en 1744 de G.W. Hyde et de projections et discussions de films. Le Festival des écrivains et de la culture de Borobudur a également un programme de narration, à savoir l'atelier de narration créative sur le thème contes et confection d'accessoires et contes d'enfants sur Borobudur, les deuxième et troisième jours de l'événement. En outre, Norman Hakim présentera un court métrage sur les enseignements de l'islam et prête à être projeté à l'école islamique Pabelan à Magelang. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les chansons indonésiennes. Merci à tous, au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. L'édition du magazine musical aujourd'hui va vous présenter des chansons de pop de Lucy Rahmawati. Restez avec nous à www.voynews.id, à 3,3 de 5 kHz ou par l'application de RRI Play. Pour commencer notre rencontre, je vous donne la chanson intitulée Selamanya Padamu ou en français Pour toujours à toi. Bonne écoute.
Ku serahkan
Voilà la chanson intitulée « Selamanya Padamu » qui a été chantée par Lucy Rahmawati. Cette chanson faisait partie des singles de Lucy en 2005. Elle raconte d'une personne amoureuse qui espère que la beauté de l'amour restera toujours. Chers auditeurs, précédemment, Lucy a rejoint le groupe EB3. En 2001, elle a décidé de quitter EB3. Elle a publié plusieurs albums solo, ce sont Lucy en 2001, Dua Warna en 2004, Sexy en 2007 et Aku Ini Punya Siapa en 2009. Bon, chers auditeurs, écoutons une autre chanson de Lucy Rahmawati dont le titre est Saat Kau Jauh.
Ingin kau kembali.
chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Lucy Rahmawati intitulée « Saat Kau Jauh ». Cette chanson raconte une personne qui manque son amant. Il espère que l'amant vient et supprime le désir qui existe. Et c'est une chanson pop avec une touche de jazz. En plus de chanter, la femme qui vit maintenant en Australie a également joué un rôle dans un feuilleton intitulé « Gadis Penakluk ». Auditeur, des chansons de Lucy Rahmawati que nous allons écouter s'intitulent « Tak Terganti » ou en français « Pas remplacé » et « Demi-cinta » ou en français « Pour l'amour ». Ces deux chansons vont terminer l'édition d'aujourd'hui. Bonne écoute, au revoir.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325 kHz
par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
sini sekian lama dan selalu hadir di sini menjaga cinta yang selalu kau tanam untuk akhiri.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 45 Jakarta 10110 ou PO Box 1157 Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOIINDONESIA ou bien Instagram Voice-of-Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.